Asian faces, going to so many places where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggies, for the baggage is so heavy. I hear the plane is ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so. I wish I'd be much stronger. For the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane, way down the runway. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so.
Nous sommes toujours sur Jet FM dans Mégaphone et nous venons d'entendre Airport du groupe The Models. Un choix musical en lien avec la seconde partie de l'émission consacrée à l'aéroport de Nantes Atlantique. Une explosion du trafic aérien à l'horizon 2040, ce sont toujours les projections officielles. On passerait de 6 à 10 millions d'usagers annuels, soit un vol tous les 2 à 3 minutes. Et cela n'est pas sans conséquences, puisque cela représente près de 100 000 personnes potentiellement affectées par le bruit et les particules fines. Mais le 29 septembre dernier, le gouvernement a annulé l'appel d'offres pour le renouvellement d'un contrat de concession et la modernisation de l'aéroport. Un contrat qui a été évalué à près de 500 millions d'euros. Les raisons ? Une insuffisance de concurrence et risques juridiques. L'aéroport était en fait le seul concurrent en lice et l'appel d'offres proposait notamment une extension de la piste d'atterrissage dont on peut interroger les bénéfices. C'est un report temporaire puisque l'État promet un nouvel appel d'offres pour l'aéroport d'ici la fin de l'année. Qu'en disent les riverains de l'aéroport ? Paolo Ferreira, président de l'association COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien, nous en dit un peu plus.
Comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle du report de l'appel d'offres pour l'aéroport de Nantes Atlantique ?
En fait, ce n'est absolument pas rigoureux et sérieux d'annoncer, de dire on arrête un appel d'offres pour en relancer un autre un mois après. Donc en fait, on a juste relancé le même projet, sauf qu'on va s'arranger pour qu'on fasse semblant d'écouter les élus locaux. Et tout ça en annonçant, et ça je vous le parie, en annonçant qu'on va abandonner en fait l'allongement de la piste de 400 mètres, ce qui permettra pour le coup de remettre l'appel d'offres en fait en cours et de pouvoir renégocier des choses. Mais on va garder l'essence même du projet, qui est de maintenir l'aéroport là où il est et avoir un objectif de croissance complètement, complètement fou.
Ce que vous réclamez au niveau du COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien, c'est notamment le lancement d'une étude d'impact en santé avant l'appel d'offres.
Oui, en fait, on fait tout à l'envers hein, sur le marché précédent et je crains qu'on reproduise les mêmes erreurs. Sachant que le marché était basé de toute façon sur un objectif de chiffre d'affaires qui était lié à une croissance du trafic, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc du coup, ça a engagé l'État et ça a engagé du coup aussi le futur concessionnaire, puisque c'est lui qui prenait à charge les investissements. Et donc le bon sens voudrait qu'on réalise, qu'on définisse un projet correctement et qu'on évalue les études d'impact avant de lancer un marché de mise en œuvre.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement les impacts de cette exposition au bruit et au trafic aérien pour les habitants ?
Si on ne parle que des impacts sonores, on ne parle même pas encore de la qualité de l'air, hein, qui n'est pas du tout prise en compte dans la réglementation aérienne, au passage, où je parle des particules ultra fines notamment, mais pour les impacts sonores, typiquement des problématiques cardiaques, de tension, d'hypertension.
Et qui se traduisent très concrètement par une baisse de l'espérance de vie en bonne santé.
Absolument, oui, pardon, j'aurais dû commencer par cela. Tout simplement aussi parce qu'on manque de sommeil.
Paolo Ferreira, quid du couvre-feu en quelques mots ? Théoriquement, il n'y a pas de vol entre minuit et 6h du matin. Au niveau du COSETA, vous répertoriez toutes les infractions à ce couvre-feu. Ça donne quoi ?
Oui. On parle en fait d'amendes qui n'ont jamais été payées, en tout cas pour la plupart. Et par ailleurs, donc minuit, 6h du matin, on crée un effet complètement délétère avec ce couvre-feu. C'est que avant minuit, vous avez un point aérien au-dessus de votre tête. Et juste après 6h du matin, vous avez un autre point aérien au-dessus de votre tête. Donc c'est absolument terrible pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on avait demandé d'ailleurs que la plage soit étendue à 23h, 7h du matin pendant la semaine. Ne serait-ce parce que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande une plage de 8 heures de sommeil. Non seulement le couvre-feu n'est pas suivi, mais en plus, pour le coup, il y a des effets de bord qui sont vraiment néfastes pour la santé. Et en plus, on a banalisé le samedi et le dimanche. Avant, ce n'était pas le cas. Voilà.
Qu'en est-il justement de la concertation et de la mobilisation locale du côté des collectivités et des élus ? Est-ce que vous en êtes satisfait ?
Non, on n'est pas rassuré parce qu'on met en avant effectivement la santé publique, mais il n'y a aucune réelle mesure là-dessus. Si on voulait vraiment protéger les gens, il faudrait soit cantonner le trafic prévu à quelque chose de raisonnable.
De votre côté, vous évaluez justement ce que serait un trafic aérien raisonnable du point de vue de la santé publique pour les habitants ?
Oui, j'aimerais juste préciser deux choses. C'est soit, de toute façon, on replafonne effectivement dans la mesure du possible les vols. Le nombre de vols, c'est moins de 30 000 mouvements en fait par an et non pas 56 000 mouvements comme on entend parler. 30 000, pourquoi ? Parce qu'initialement, lorsque la DGAC avait réalisé une étude sur cet aéroport, elle avait dit qu'au-delà de 3 millions de passagers par an, de toute façon, on aurait de telles nuisances qu'il faudrait l'envisager ailleurs. Donc finalement, ce que porte le COSETA, c'est simplement deux scénarios possibles. On maintient l'aéroport, mais on réduit drastiquement le trafic aérien. Mais du coup, on abandonne complètement l'aéroport du Grand Ouest et l'ambition du développement territorial, ce qui pourrait se justifier, hein, bien entendu. Ou alors, deuxième scénario, et c'était quand même le scénario qui avait été travaillé à l'époque, si on veut faire quelque chose de plus important, il faudra le faire ailleurs. Là, on puisse mieux maîtriser effectivement les nuisances et mieux accompagner effectivement ceux qui seraient soumis à ces nuisances.
Le plafonnement, pour l'instant, je vous cite une réaction de Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire. Réduire le trafic, c'est tuer l'aéroport.
Évidemment, je la suis. On ne peut pas à la fois investir lourdement sur un aéroport et en même temps brider le trafic. Ça n'a aucun sens. Ça, je la rejoins, mais ce qu'elle oublie juste, c'est qu'elle sait sciemment qu'en développant en fait le trafic, du coup, il y a plus de 100 000 personnes qui seront concernées par les nuisances aériennes. Et quand je pense, quand je parle de concernées, encore une fois, c'est l'impact sur la santé. Et ça, on ne mesure pas en fait l'impact économique que ça représente. Je vous passe le le côté éthique, hein, bien entendu, puisque apparemment personne ne le prend en compte. Donc Madame Morancède a tout à fait raison en disant qu'effectivement on tuerait cet aéroport. En tout cas, on tuerait l'ambition qu'on avait pour cet aéroport pour le Grand Ouest. C'est surtout ça qu'il faut entendre. Donc du coup, il faut être un petit peu cohérent. Soit on constate que cet aéroport, il ne faut pas investir dessus, mais il faut le faire ailleurs pour l'ambition qu'on a, soit on revoit complètement l'ambition.
L'aéroport actuel pourrait être dimensionné, en tout cas vous parliez pour 30 000, 40 000 vols par an, et oui, rester sur entre 3 et 5 millions de passagers.
Inférieur à 5 millions, encore une fois, 5 millions de passagers, on l'a déjà connu et c'était très difficile
c'était
à vivre.
C'était le pic de 2019.
Voilà, même 2019, on était même à 6,9 ou 7 millions de passagers, hein, ce qui était déjà excessif. Il y a eu un rapport en 2013 qui avait reconfirmé en fait ce point-là. Et donc, pour le coup, le bon chiffre, entre guillemets, mais encore une fois, subir les nuisances aériennes, ça n'a rien de bon. Mais au-delà de 30 000 mouvements, en fait, point de salut, quoi. Mais 30 000 mouvements, vous savez, finalement, on l'atteint très, très, très vite, hein. Encore une fois, c'est une question de stratégie de territoire. Mais du coup, il faut aussi réfléchir à rationaliser aussi les autres aéroports. Il y a 11 aéroports dans le Grand Ouest, c'est peut-être la région, les territoires où il y a le plus d'aéroports, en fait. Un exemple, le trafic aérien sur Quimper, par exemple, c'est essentiellement du Quimper Orly, pour pouvoir après prendre des correspondances. C'est une aberration totale, vous voyez. Donc c'est une aberration, certains aéroports tournent complètement à vide ou à perte, ce qui n'a absolument aucun sens. Il faut peut-être réfléchir là-dessus, et en même temps, réfléchir à ce qu'on pourrait faire finalement du site actuel de l'aéroport de Nantes-Atlantique.
Je vous arrête un instant, hein, Paolo Ferreira, pour être très clair. Du côté du COSETA, c'est l'impact sur la santé et le bien-être des habitants concernés, hein, 100 000 potentiellement par la nuisance de l'aéroport. Par contre, l'argument écologique sur la nécessité de réduire, diminuer, limiter le trafic aérien dans un contexte de changement climatique qui est quand même très pressant, ça ne fait pas partie de ce que vous défendez. Vous êtes quand même sur cette idée de croissance, ok, on acte la nécessité d'une croissance du trafic aérien.
Écoutez, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, j'ai juste dit qu'à un moment donné, il y a un besoin qui est celui-ci. Donc la question, c'est de se dire comment on peut y répondre. Alors déjà, nous, notre légitimité, c'est la problématique de la santé publique, la problématique donc des personnes impactées par les nuisances aériennes. La question, en fait, de la santé publique est liée aussi à l'environnement dans lequel on vit. Donc, mécaniquement, l'environnement et l'écologie nous concernent directement, bien entendu. Je dirais même qu'il faut appeler de la cohérence. Dans le courrier des 24 maires, il y a une phrase choc, valise, qui consiste à dire « L'aéroport de Nantes-Atlantique ne sera pas un nouvel Notre-Dame-des-Landes ». La phrase qui veut absolument rien dire. Par contre, nous, on appelle absolument à de la cohérence. Notre-Dame-des-Landes, la décision de ne pas le faire là-bas, c'était aussi pour des questions écologiques. Là, on a un aéroport qui, d'une part, est situé sur une zone hyper urbanisée et qui va toucher plus de 100 000 personnes, donc on dit de la santé publique. Et d'un autre côté, il est situé sur une zone Ramsar, Natura 2000, donc qui est le lac de Grandlieu, qui est quand même la première réserve ornithologique de France en nombre d'espèces. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Pourquoi ce qui était valable à Notre-Dame-des-Landes n'est pas applicable du point de vue écologique à cet aéroport de Nantes-Atlantique? Voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, du point de vue environnemental, je suis entièrement d'accord. L'État, le gouvernement a annoncé en fait un plan lié au défi climatique. Est-ce que vous avez vu une ligne sur la question aérienne? Non, vous n'avez rien vu. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est absolument pas programmé. C'est absolument pas d'actualité. Donc du coup, il faut être rationnel. Donc pour le coup, quelle est l'autre façon de faire finalement? C'est de se dire, peut-être qu'il y a beaucoup trop d'aéroports en France, et en tout cas sur notre territoire, peut-être qu'en rationalisant cet aéroport, on contribue aussi à cet objectif finalement de réduire effectivement le nombre de vols. Donc là, non seulement on contribue à la problématique de santé publique en réfléchissant ainsi de manière très large, et en plus on contribue au défi climatique que je partage complètement. Mais pour ça, il faut avoir une vision, une coopération, une vision la plus large possible. Pour l'instant, on ne l'a pas. C'est pour ça que je ne suis pas du tout satisfait du positionnement en fait national et encore moins du positionnement local, parce qu'on n'est pas raisonnable.
Paolo Ferreira, je rappelle que vous êtes président du collectif des citoyens exposés au trafic aérien. Qu'est-ce qui reste de votre côté comme espoir, mobilisation là, à court et moyen terme?
En fait, il n'y a pas d'espoir, il faut agir. Bon, alors nous, pour le coup, ce qu'on fait, effectivement, c'est des mobilisations, des manifestations, mais pas des manifestations qui visent à détruire, mais des manifestations constructives. Deuxièmement aussi, je sais très bien que donc on assiste à énormément d'instances. Ça demande beaucoup d'investissements, bien entendu, de notre part. Et le point le plus important et qu'on est en train d'engager, bien entendu, ce sont les recours juridiques. Parce que pour le coup, il y a matière à faire.
Des recours qui, précisément, portent sur quel point ?
En fait, la santé publique. Et on ne restera pas au niveau français, on restera au niveau européen. Parce que de toute façon, on sait qu'il va falloir sortir de notre législation française.
Et puis là, c'est quelque part le report de cet appel d'offres, eh bien, c'est du temps pour la mobilisation pour le COSETA. À minima, un report de 2 ans des travaux initialement prévus, oui, de modernisation de l'aéroport de Nantes Atlantique.
Oui, alors là-dessus aussi, c'est un sketch. Tout le monde aura relevé en fait que 2026, c'est une échéance municipale et 2027, une échéance présidentielle ou gouvernementale. Finalement, on gagne du temps pour que la patate chaude soit pour le prochain gouvernement.
Comment est-ce que vous expliquez que Johanna Roland ne s'engage pas en faveur d'une restriction du trafic aérien et puis quelle serait sa marge de manœuvre, son pouvoir en la question ?
Tout simplement parce qu'elle ne veut pas s'exposer sur ce sujet. Elle sait que c'est un sujet qui est politiquement difficile à tenir. Encore une fois, la référence à Nantes Atlantique ne sera pas Notre-Dame-des-Landes. Ça démontre bien quelque chose. C'est que dans l'esprit de ces politiques-là, Notre-Dame-des-Landes est un véritable trauma. Ils savent très bien que c'est un suicide politique de réouvrir le dossier. C'est trop difficile à gérer. On est plutôt sur des engagements ou plutôt sur des calculs qui sont très individuels, des calculs politiques qui sont très individuels. Clément Beaune, lui, il va viser 2027 la mairie de Paris, donc il a intérêt à avoir une posture écologique, environnementale très intéressante. Johanna Roland va jouer aussi sur ce tableau-là pour les municipales, et Christelle Morançais va être intéressée peut-être pour un nouveau gouvernement, ça risque sûrement de changer, et du coup je pense qu'elle se projette aussi là-dessus. Donc tout voilà, ce sont que des calculs politiques d'intérêt personnel. Dans cette histoire, il va y avoir 100 000 et 23 cocus dans cette affaire. Tout ça donc contre l'intérêt général. C'est ça la véritable histoire, c'est ça le scandale de cet aéroport.
Merci Paolo Ferreira. Je rappelle que vous êtes président de l'association COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien. Et puis vous avez un site internet très documenté où on peut retrouver toutes les informations sur votre mobilisation.
Merci infiniment en tout cas de m'avoir proposé d'intervenir.
Depuis cette interview, plusieurs annonces ont été faites par le ministre des Transports Clément Beaune. L'abandon de l'allongement de la piste, l'augmentation des aides aux travaux d'insonorisation ainsi que des contraintes plus restrictives afin de faire respecter le couvre-feu existant. Des annonces qui sont saluées mais jugées insuffisantes puisque l'élargissement de la durée du couvre-feu ou encore la limitation de l'activité aéroportuaire n'ont pas été prises en compte. Avant de se quitter, un petit point flash d'actualité d'événements à venir. Ce samedi, à partir de 18h, aura lieu une soirée témoignage de personnes rapatriées de Gaza et de personnes palestiniennes vivant en France depuis plusieurs mois, voire années. Cette soirée se déroulera au CMEA et sera suivie d'un repas palestinien dont les bénéfices seront reversés à des organisations en soutien à la Palestine. Le prochain mégaphone sera consacré à ce sujet. Et mardi prochain, le 28 novembre, aura lieu une conférence organisée par Bretagne Vivante intitulée « La forêt et le changement climatique » avec Nicolas Janot de l'Office national des forêts, accessible gratuitement à la médiathèque Charles Gauthier Hermeland à Saint-Herblain sur inscription. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Bretagne Vivante. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur jetfm.fr, rubrique Mégaphone. À suivre à l'antenne, un reportage pensée locale juste avant de rejoindre Calomé avec Chemin d'Afrique. Très belle soirée sur JetFM.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne. Écologie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone,
le magazine de la rédaction de Jet.